Y sin más voy a pasar ya a la siguiente presentación, la de la profesora Nadine Lee. Nadine Lee a été professeure de linguistique et de littérature espagnole à l'université Bordeaux-Montaigne de 1966 à 2008 et dirige le très célèbre Bulletin hispanique, fondé en 1899, depuis l'année 2002. Elle est cofondatrice de l'équipe d'accueil Amérivert et fondatrice du GRIAL, groupe de recherche interdisciplinaire d'analyse littérale. Agrégée d'espagnol en 1964, elle soutient en 1978 une thèse intitulée « La poétique de l'interlocution dans le théâtre de Lope de Vega ». Ses travaux portent principalement sur l'écriture poétique, dramatique et narrative au siècle d'or, la linguistique textuelle et le concept de littéralité, une méthode inédite d'analyse de discours qu'elle a contribué à créer. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages et a coordonné en 1995, pour la collection de la Pléiade, une anthologie bilingue de la poésie espagnole. Elle a présidé la 14e section du CNU, ainsi que la Société des hispanistes français. Elle a été membre du conseil scientifique de la Casa de Velázquez aussi. Aujourd'hui, elle va nous parler de La Agudeza de Sancho, du Brément de l'âne à la question de méditation.
Merci beaucoup et merci également à Malina et à Philippe d'avoir eu la très grande gentillesse de m'inviter à cette journée, n'étant pas moi-même servantiste, mais leur invitation très chaleureuse m'a obligée à travailler et c'est une très bonne chose. Donc je les en remercie. Comme vous le voyez, il est difficile de parler après tout ce que nous avons entendu ce matin et qui était superbe, et je vais le faire en français. Donc, La Agudeza de Sancho, du Brément de l'âne à la question de l'imitation. Du chapitre 25 au chapitre 27 de la deuxième partie se déroule une aventure complexe dont le dénouement est retardé jusqu'au chapitre 27 et au-delà. Il s'agit, dans la suite immédiate de la descente à la Cueva de Montesinos, de l'aventure du Brément de l'âne, parfois appelé « El Torneo de los Rebuznos ». Stratégiquement coupée en deux, elle encadre celle du retable de Maese Pedro, avec laquelle elle entretient des liens notables bien mis en évidence par les spécialistes. Agitée de constants renversements, et même d'apparentes incohérences narratives, je pense à l'hésitation, on va à l'ermitage, on va à la venta, on va à l'ermitage et on va à la venta finalement, elle est sans conteste l'une des plus comiques du livre. Elle est aussi, sans doute en raison de sa rustique et asinesque simplicité, et en dépit du jugement sans appel de Riley, qui la juge absurde et inefficace, l'une des plus profondes, comme il convient à un esprit, celui de Cervantes, que Giuseppe Di Stefano qualifie dans un article consacré à l'âne de Sancho de ingenio tan festivo como despistador. Comme l'indique le titre de cette intervention, je me propose de rendre compte de ce que Cervantes appelle la agudeza de Sancho en reliant le duo Don Quichotte-Sancho, discours brément, à quelques motifs fondamentaux présents dans la deuxième partie, avant d'inscrire l'épisode dans la thématique de l'imitation, dont la mise en spectacle, magistralement inventée dans la première partie, descend ici à son niveau le plus bas et atteint son nec plus ultra comique et offensif. Car l'épisode des ânes est, comme bien d'autres, lié à l'affaire Avellaneda, qui traverse de part en part et nourrit par répugnance ou imitation méliorative, qu'on a pu le dire, le Quichotte de 1615. L'épisode des ânes lui-même, entre rhétorique, art de conter et folklore. La structure de l'aventure du Rebuzno relève, du point de vue de la dispositio, de la première rhétorique. On y trouve en préalable l'exposition du cas, c'est-à-dire la narrature des faits de la cause, la bataille qui se prépare entre les villageois de l'âne et un village voisin. Elle est prise en charge par ce brillant raconteur, et je prends là le mot de Michel Mouner, qui est le convoyeur des armes rencontré par Don Quichotte et ses compagnons. Je rappelle rapidement le conte. Il s'agit effectivement d'un conte stratégiquement maintenu en suspens, dont le convoyeur d'armes, très pressé, confirme plusieurs fois la véridiction. Celui des deux regidores, qui partit à la recherche de l'âne perdue par l'un d'eux, décide de mettre à profit leur extraordinaire habileté à braire pour que, les entendant, l'âne perdue finisse par leur répondre. Hélas, c'est à l'autre que chacun d'eux va répondre, et c'est eux-mêmes qu'ils ne cessent de retrouver, échangeant force compliments et renchérissant sur leur égale capacité à faire l'âne. Quant au pauvre grison, ils finissent par le retrouver mort. Répandu par le diable qui jamais ne dort, l'histoire fait le tour de la contrée et déclenche une avalanche de moqueries et de sarcasmes dont l'escadron du village de l'âne, El Pueblo Corrido, décide de laver l'offense en affrontant en combat singulier le village que le corría más de lo justo. On y trouve ensuite, après la destruction du retable des marionnettes, l'éloquente exhortation pacificatrice de Don Quichotte, plus cicéron que jamais, là encore je cite Michel Mouner, ce discours qui prétend ramener les villageois à la raison et à la juste appréciation de l'affront ou de l'offense subie, s'inscrit nettement dans le genre délibératif, avec une argumentation qui ne laisse pas d'amuser, bien qu'elle soit forte, bien structurée et qu'elle semble convenante. On y trouve tous les éléments qui en font un discours rhétoriquement accompli. Deux chapitres après la narratio du cas, l'évocation détaillée et précise des circonstances de la rencontre, due au hasard, entre Don Quichotte et l'escadron des offensés. Deuxièmement, l'auto-présentation de l'orateur qui garantit son éthos, l'honnêteté et l'utilité de son intervention. Troisièmement, l'examen de la cause. Quel est le problème? Existe-t-il? La réponse est immédiate. S'il s'agit de laver un affront, cet affront n'existe pas en vertu des lois qui régissent le duel et du fait qu'un seul individu ne peut offenser une population entière. La preuve, elle est donnée par les exemplats. Il aurait fallu défier collectivement cette population pour trahison, comme le l'avait fait Don Diego Ordóñez de Lara pour Zamora, ses habitants, ses morts, ses eaux, son pain et son vin, les enfants à naître et autres détails, dépassant ainsi singulièrement les limites du défi. Et à ce moment-là, Don Quichotte a une remarque assez particulière, puisqu'il dit « Don Diego anduvo algo demasiado y aún pasó muy adelante en lo, de los límites del reto, porque no tenía para qué retar a los muertos, a las aguas, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer, ni a las otras menudencias que allí se declaran. Y la remarque qui m'intéresse es la suivante, pero vaya, pues cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo, ni freno, que la corrija. On retrouvera cette colère plus tard. Autre preuve, un exemple familier et contemporain, celui des noms moqueurs et comiques donnés aux habitants de certaines villes ou villages, appelés malicieusement insignes pueblos, mais qui ne déclenchent ni guerre ni massacre. Le ton s'élève alors pour le jugement et le conseil final, avec l'énumération des raisons capitales qui justifient la guerre et la convocation d'autorités majeures de plus en plus incontestables, los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas et le Christ lui-même, législateur suprême, qui recommande d'aimer son ennemi et de faire du bien à ceux qui nous détestent. Le jugement de Don Quichotte s'imbrique dans sa démonstration, aux cinq causes capitales qui justifient qu'on prenne les armes avec quelques autres, s'opposent les enfantillages ridicules et même insensés des villageois. Tomarlas por niñerías y por cosas que antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, parece que quien las toma carece de todo razonable discurso. Así que, mis señores, vuestras mercedes están obligados por leyes divinas y humanas a sosegarse. Si le cadre rhétorique inclut successivement un joli échantillon de l'art de conter suivi d'un notable morceau d'éloquence, le casus belli retenu par l'inventio n'est qu'une ridicule mais savoureuse affaire d'âne et de querelle de clocher. Souvent rapproché d'Apulée, l'épisode est surtout défini par ses racines folkloriques, dont on remarque que si elles sont affirmées partout dans la critique, elles reposent essentiellement sur la devise inscrite sur la bannière des villageois du Rebuzno. « No rebuznaron en balde, el uno y el otro alcalde », qui, à une négation près, coïncide avec le refrain recueilli par Correas. « Rebuznaron en balde », etc. Et sur l'existence de nombreux contes populaires mettant en scène des ânes. Rodriguez Marín, dans ses diverses éditions du Quichotte et dans ses très savoureuses notes, déclare qu'il est tout près de découvrir le nom du village de l'âne et qu'il va le révéler. Mais on ne le trouve pas et personnellement, c'est peut-être une ignorance de ma part, je n'ai pas trouvé non plus de conte qui raconte cette histoire. Ce qui a sans doute engagé Luis Andrés Murillo a suggéré que ce proverbe pourrait avoir sa source dans l'épisode Cervantin. C'est après le véhément discours de Don Quichotte que surgit la tonitruante agudeza de Sancho. En deux temps, il y a deux réactions. Sensible à la perfection du discours de son maître, à son élévation argumentative, à son bon sens, à sa générosité, Sancho prend en charge, comme pour la libérer, une émotion admirative qu'il exprime en silence et en son fort intérieur en des termes rustiques et familiers bien différents de l'éloquence quichotesque. « El diablo me lleve, dijo esta sazón Sancho entre sí, si este mi amo no es tólogo, y si no lo es, que le parece como un huevo a otro. » Génial orchestrateur de contraste et impitoyable dégonfleur de toute espèce d'enflure, Cervantes fait ici comme ailleurs de la réaction de Sancho comme le buvard ou le capteur et le révélateur sensible de toute dissonance, perceptible comme l'a montré Américo Castro dans les Teologías et les beaux discours non suivis d'actes. Pour ce qui est de la vaine éloquence dont la hinchazón représente l'insupportable excès, je renvoie au substantiel article de notre ami et collègue Luis Gómez Canseco de 2002. Qu'en est-il des destinataires directs du discours de Don Quichotte, les soldats de l'escadron du Bréman? Il reste quoi? Todavía le prestaban silencio. D'un silence sidéré, stratégiquement laissé dans l'indéfinition, entre l'étonnement, préalablement souligné par le mot admiration, une possible incompréhension, on ne le saura pas, ou encore la stupéfaction de s'entendre traiter d'insensé par Don Quichotte. C'est dans le blanc de ce silence que se situe l'intervention de Sancho, au moment même où Don Quichotte, reprenant son souffle, aurait bien voulu passer adelante en su plática como pasara, si no se pusiera en medio l'agudeza de Sancho. L'écuyer, prenant la parole et les choses en main, fait alors un éloge piquant de l'érudition de son maître, de sa connaissance du vulgaire et du latin, de ses qualités de soldat et de sa science des ordonnances qui régissent le duel, toute qualité qui autorise son jugement sur l'affaire. Jugement, à savoir qu'il est stupide de se mettre en colère pour le seul fait d'entendre braire. On connaît la suite. Sancho invoque, en manière de deuxième argument d'autorité, sa propre expérience et le fait que, comme les deux regidores de l'histoire, il savait lui aussi, dans sa jeunesse, braire comme un âne, si bien que tous les ânes de son village lui répondaient, et ce, sans en être jamais déshonorés, mais au contraire enviés, por los más estirados. Joignant le geste, ou plutôt le braiement à la parole, puesta la mano en las narices, comenzó a rebuznar tan reciamente que todos los cercanos valles retumbaron. La riposte ne se fait pas attendre. L'un des combattants qui avait gardé le silence, croyant qu'il se moquait de son escadron, passe immédiatement à l'acte et lui assène un terrible coup de gourdin qui le jette à terre. À Boudessa, où irrésistible ânerie. Pour le lecteur qui spontanément éclate de rire, et pour Don Quichotte, furieux et sans doute secrètement mortifié par le désobligeant et grossier contrepoint du braiement à son splendide discours, c'est une énorme bourde payée de nouvelles plaies et bosses, équivaut à Sancho, traité de boche par son maître, d'être violemment confirmé dans sa nature d'âne batté. Il n'est sans doute pas anodin que Sancho, à la fin de l'aventure, lorsqu'il retrouve son maître qui a fui la bagarre, ou plutôt qui s'est retiré du combat en raison des armes à feu qui le menaçaient, finisse par lui dire « Subamos, y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos como a leña o como cibera en poder de sus enemigos. Il n'échappe à aucun lecteur assidu du Quichotte que l'association nue du mot agudeza à Sancho, sans la simplicité qui l'accompagne habituellement, constitue un événement exceptionnel dans le livre. Par ailleurs, si l'on accepte la belle approbation hors diégèse du licencié Marques Torres, c'est la seule fois que le mot agudeza, au singulier, est utilisé tout seul dans le double Quichotte. Ce statut justifierait que l'on prenne la agudeza de Sancho, si l'expression n'est pas trop déplacée ici, au sérieux. Mais il y a bien d'autres motifs qui justifient que l'on tente cette aventure. Et le principal motif, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étonnant Sancho de la deuxième partie. Vient de nous en donner quelques exemples. La lecture non ironique de la agudeza de Sancho, ou du mot agudeza, qui n'annule en aucune manière sa lecture ironique, les deux coexistent, est en quelque sorte conditionnée par un rapide échange entre maître et écuyer juste avant le discours de Don Quichotte, où Sancho se montre plus agudo, plus fin et plus vif que son maître. Lorsque le chevalier lit à son écuyer analphabète la devise des villageois en armes, « Non rebusnaron en balde », etc., il note une disparité entre le récit du convoyeur d'armes et les vers de la devise, « Alcaldes » au lieu de « Regidores ». Ni l'un ni l'autre ne prête attention au fait qu'il s'agisse de vers, précisément, auxquels la rime donne leur allure proverbiale. Néanmoins, la réponse de Sancho, qui trouve une raison de type historique à cette différence, mais ne la juge pas pertinente, présente l'avantage de se placer ici, non du côté de la vérité particulière ou du particulier historique, mais d'un universel poétique adapté. En même temps, elle scelle avec humour l'égale aptitude des édiles paysans à braire comme des ânes. « Señor, en eso no hay que reparar, que bien puede ser que los regidores que entonces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo, y así se pueden llamar con entrambos títulos. Cuanto más que no hace al caso a la verdad, que no hace el caso a la verdad de la historia ser los rebuznadores alcaldes o regidores, como ellos una por una hayan rebuznado, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor. Enfin, elle n'est pas sans faire écho à la réponse de l'imposteur Maese Pedro à Don Quichotte interrompant le spectacle des marionnettes pour un point de non-respect de la vérité historique, l'impropriété des cloches de Sansueña, et dont l'un des termes, Niñerías, sera repris par Don Quichotte dans sa harangue au villageois du Ribusno. Encourageant son interprète à continuer, Maese Pedro est prêt à représenter toutes les impropriétés pourvu qu'elles remplissent sa poche, comme le font d'ailleurs, dit-il, les dramaturges les plus admirés de son temps, lisons Lope en tête, visé ici une fois de plus par Cervantes et lié à Avellaneda. Il est manifeste par ailleurs que dans la deuxième partie, conjointement avec Cide Hamete, dont le rôle acquiert un relief marqué, c'est le personnage de Sancho qui bénéficient des approfondissements et des améliorations, entre guillemets, les plus spectaculaires. Sans entrer dans d'autres détails, je voudrais simplement souligner l'une des nombreuses élégances de Cervantes à l'heure où il commente la réinvention par lui-même de son Sancho. Au lieu de l'opposer constamment et concrètement à certains traits lourdement forcés par l'usurpateur, pardon, il en fait au chapitre 5 de la deuxième partie, de la discreta y graciosa plática que pasó Sancho Panza entre Sancho Panza y su mujer, l'objet de l'étonnement du traducteur de l'histoire, qui estime on atteint là un sommet de subtilité et de paradoxe absolument insurpassable, que le chapitre est apocryphe. Llegando a escribir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así prosiguió diciendo, etc. Deux fois encore, dans le même chapitre, il revient à la charge. La première après que Sancho a sommé l'incrédule Teresa de se laisser porter par les vents favorables à leur ascension sociale. Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dice Sancho, dijo el traductor de esta historia que tenía por apócrifo este capítulo. Et la deuxième fois, lorsque contre Teresa, qui soutient que la pauvreté, même passée, laisse une tache indélébile, il convoque l'autorité du curé pour lui asséner que le présent est bien plus présent dans la mémoire que le passé. Todas esas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por quien dice el traductor que tiene por apócrifo este capítulo que exceden a la capacidad de Sancho. On remarque aussi, et je vous épargne le détail, que le mot apocryphas apparaît une fois dans la première partie, mais qu'il apparaît six fois dans la deuxième. Mettre au compte de sa propre fiction le caractère apocryphe de certains de ses chapitres, existe-t-il pour Cervantes meilleure arme pour rayer d'un mot et d'un trait de plume la suite d'Avellaneda en l'absorbant, en la digérant dans sa propre suite et en s'appropriant le privilège exclusif de l'écriture apocryphe pour la faire authentiquement sienne? Comment cet autre Sancho, dont les discours surpassent les capacités, ne serait-il pas capable de faire d'un braiment une magistrale et paradoxale agudeza? Les effets de l'agudeza de Sancho, quelques propositions. Si l'intervention de Sancho, en raison d'un contexte totalement asinifié et de l'assimilation traditionnelle du villano à l'âne, est prise au pied de la lettre une incontestable ânerie, elle n'en est pas pour autant une bourde. En premier lieu, parce que si elle forme avec le discours de Don Quichotte un formidable duo de contrepoints, elle est la seule issue, le seul desempeño vraisemblable d'une histoire d'âne et de braiement complètement dépassée par l'argumentation de Don Quichotte et de son discours délibératif. Sancho fait là ce qu'il ne faut ou qu'il ne fallait absolument pas faire, mais il fait ce que tout le monde, consciemment ou non, attend qu'il fasse, à moins que Cervantes ne s'amuse à suivre le conseil de Quintilien, à savoir qu'il convient de lire les différents discours prononcé sur les faits d'une même cause. Son braiement, attendu inattendu, fait rire parce qu'il répond à cette maudite pulsion mimétique qui pousse irrésistiblement certains individus, quoi qu'il puisse leur en coûter, à parler de la corde dans la maison du pendu et à imiter ou à singer les défauts, handicaps ou manières de parler de leurs interlocuteurs. Elle fait écho aux exploits brayeurs des regidores que Sancho se fait fort de surpasser, et surtout, elle jette sur le discours de Don Quichotte et sur ses effets une lumière oblique, en démontrant notamment sa totale inefficacité sur les villageois de l'âne. Au premier braiement entendu, il cogne. À ce propos, Cervantes prend bien soin, contrairement à ce que peut affirmer Carlos Romero, de ne jamais suggérer que le discours de Don Quichotte est sur le point de calmer les matamores en armes. Et il faut bien dire que s'il y était parvenu, l'histoire aurait été beaucoup moins intéressante. Si la Agudeza de Sancho n'était qu'une bourde, elle aurait pu, comme tant d'autres, être désignée par simplesa, necedad ou disparate. Si elle était seulement destinée à dénoncer la non-convenance du discours de Don Quichotte, elle aurait pu être désignée par malicia, comme c'est le cas un peu plus loin, et on a rappelé l'épisode, un peu plus loin dans le livre, lorsque Don Quichotte refuse obstinément de s'asseoir à la place d'honneur que lui propose le duc, et que Sancho raconte l'historiette de l'hidalgo et du labrador que presumía de cortés y bien criado hasta que el hidalgo mohino, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza diciéndole: «Sentaos, majagranzas, que a donde quiera que yo me siente será vuestra cabecera». Mêlée de simpleza y de malicia, la agudeza de Sancho, outre sa valeur ironique et antifrastique, je répète qu'il faut la maintenir, est véritablement un trait d'esprit lapidaire et explosif, autant par son extraordinaire à propos et la manière dont elle conclut définitivement l'épisode, que par ses résonances et les tensions qu'elle révèle en les dénouant. À mi-chemin entre ce que Gracián appelle « agudeza por desempeño en el hecho » et « agudeza por desempeño en el dicho », le braiement de Sancho, qui non seulement imite l'âne et les imitateurs des ânes, mais fait en quelque sorte un écho animal et burlesque aux paroles de Don Quichotte, dont il imite, entre guillemets, par un ingénieux raccourci comique, la non-pertinente pertinence, est un acte, et un acte qui vaut bien des discours. Mettant en lumière l'inutilité d'une harangue dont Sancho perçoit finement l'incongruité, sans commune mesure avec son objet, le braiement inscrit aussi l'épisode au cœur d'un questionnement qui innerve de manière différente les deux parties du Quichotte, celui de l'imitation et notamment, dans la deuxième bien entendu, de l'infâme imitation avellanedesca. Raras habilidades. Nombreux, on l'a dit, sont les éléments, et ça a été étudié, qui relient le récit encadrant des ânes à celui encadré du retable de Maese Pedro. Ici encore, je retiendrai un seul détail. La présence dans les deux épisodes de la même formule, rara habilidad, appliquée d'abord aux alcaldes, aux regidores brayeurs, et ensuite au singe devin du montreur de marionnettes, qui bénéficie en outre d'une variante inquiétante, extraña habilidad, que lui applique Don Quichotte. Autant les premiers que le second imitent. Léo Spitzer voit dans l'épisode de Regidores la dénonciation cervantine de la bêtise et de la vanité. El aspecto quimérico y ciego de la vanidad humana difícilmente podría encontrar ilustración más convincente que esta historia, donde el arte del rebuzno se infla primero y después se desinfla ante nuestros ojos, apareciendo como un lenguaje especial de la vanidad humana. Dans Cervantes y su concepto del arte, Elena Percas de Ponseti, quant à elle, consacre deux pages suggestives à El Mono como símbolo. Elle y rappelle notamment ce que l'on sait, que le singe exceptionnel parmi les animaux est le seul à imiter l'homme, s'éloignant ainsi de la perfection divine pour se rapprocher de l'imperfection du malin. Rappelant les propos de Berganza dans le Colloquio de los Perros, elle conclut que le singe est ici símbolo de la imitation littérale y vacía de la naturaleza. Des humains qui font les ânes et un singe, afin de glisser à l'oreille d'un homme des divinations que ce dernier a glanées sur le passé et le présent de ses victimes, la rara habilidad à imiter se réduit ici à bêtise plus misérable imposture. Et ce, dans des chapitres où Carlos Romero le montre point par point, et je cite très rapidement les points, à propos de Cide Hamete, de Don Quichotte menteur ou pas menteur, de l'ermitage, du petit page qui s'en va en guerre, des auberges qui ne sont plus des châteaux, des italianismes, de Maese et Pedro, du nom de guerre de Don Quichotte, des noms de la femme de Sancho, de l'indemnisation des marionnettes, de la nourriture et du salaire de Sancho, de l'èvre et de la barque enchantée. Il s'agit, chaque fois pour Cervantes, d'apporter un démenti, chaque fois nouveau, à l'imitation d'Avellaneda. De cette liste, j'ai exclu, pour l'évoquer maintenant, l'appréciation que Romero porte sur le discours de Don Quichotte aux villageois de l'âne, et par déduction, sur la agudeza de Sancho, dont il ne parle pas. Par contraste avec l'éloge qu'il fait du discours, on peut supposer qu'il opte pour interpréter le braiement de Sancho comme une bourde. En el sensatissimo discurso de Don Quixote a los belicosos habitantes del pueblo del Rebuzno, tan eficaz que está a punto de disuadirlos de la inutilidad de la acción contra sus ofensores, el caballero recuerda el demasiado reto de Diego Ordóñez de Lara. Il est vrai qu'il est en train de démontrer de manière minutieuse, rigoureuse, la coïncidence contrastée de ce discours avec un fragment du chapitre 6 d'Avellaneda, où Don Quixote el Malo, completamente loco, sin el menor atisbo de razón, es decir, en una situación polarmente contraria a la protagonizada por el bueno, habiendo sido golpeado por el guardián de un melonar, empieza a recitar el romance Rey Don Sancho, Rey Don Sancho. No cabe mayor contraste, ni más evidente victoria que la de Cervantes en su imitación conscientemente meliorativa. Ces réflexions me rappellent que l'année dernière, j'avais entendu Francisco Rico dire lors d'une réunion agrégative comme celle qui nous réunit aujourd'hui, que tout dans le Quichotte authentique de Cervantes, tout était disparaté et qu'il fallait le prendre comme on regarde les films des frères Marx. Alors, comme toujours chez Francisco Rico, il faut faire la part de la provocation, et je dirais que jamais je ne prendrai le Quichotte, pour ma part, de Cervantes, comme un film des frères Marx. Mais qu'en revanche, il a, dans son propre Quichotte, semé ou déjà donné les germes de ce qui allait vraiment devenir le roman semblable à Groucho Marx et à ses frères, c'est-à-dire la suite d'Avellaneda. Et la suite d'Avellaneda, si on la lit comme ça, elle est sensationnelle aussi. Elle est très drôle, elle va dans tous les sens, elle déborde de partout, mais pas le Quichotte authentique, pas le premier Quichotte. Carlos Romero, pour en revenir à lui, est en train de démontrer donc une coïncidence contrastée et la supériorité de Cervantes sur Avellaneda. Il affirme donc l'excellence de l'authentique discours quichotesque comparé aux quatre vers du romance et à l'exhortation que le deuxième Quichotte adresse à Sancho d'aller au pied des murailles de Zamora. Je n'ai pas le temps de la lire, vous pouvez la lire vous-même. Cette excellence est incontestable dans l'expérience de la comparaison avec le discours d'Avellaneda. Mais dans le contexte de la guerre des ânes, elle est subtilement mise en question par le braiement de Sancho. Comme si, suprême élégance encore, c'est en conservant à son Don Quichotte ses défauts et ses travers que Cervantes le rendait infiniment supérieur, ce qu'il recherchait, à son double. Considérés en dehors de ce contexte, les arguments qu'il développe, insultes, outrages et affronts, colère de l'outragé, caractère diabolique des isanies et des duels, inutilité de la vengeance, pardon des offenses, ajoutés à d'autres motifs, présent dans l'ensemble des chapitres contigus, malhonnêteté, habileté frauduleuse et diabolique, imitation déformée ou misérable, sont tout cela est en effet si sensato et si efficace que tous ces arguments seront repris, passés par le filtre de l'ironie, de l'autodéfense et d'une délicieuse prétérition, rien moins que dans le prologue au lecteur, qu'il faut aussi relire à la lumière de ces chapitres 25-28. Quant à l'âne de Sancho, volé par les amis du gardien de la melonnière dans le chapitre 6 d'Avellaneda, on voit que chez Cervantes, il se multiplie au contraire considérablement dans les chapitres considérés, de même que les braiements qui font résonner montagnes, vallées et contrées entières. Et c'est au moment où Sancho s'animalise le plus, quand il fait l'âne, qu'il est aussi le plus agudo. Son braiement répond en l'imitant et en le sanctionnant au planctus grotesque et scatologique de sa caricature chez Avellaneda. L'année dernière, invitée ici même par Malina et Philippe, et puis ensuite à Paris par Mercedes, je m'étais intéressée à la question de l'imitation dans la première partie du Quichotte. Question cruciale, obsédante pour le travail de l'écrivain, et que Cervantes résout en faisant la matière et le moteur même des aventures burlesques de son héros, de Sancho et de proche en proche, de bien des personnages qui l'approchent, mettant ainsi constamment en spectacle ce que j'avais cru devoir appeler, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, peu importe, l'épopée comico-nostalgique de l'imitation et de la difficile conquête d'une liberté poétique au moyen de et en lutte contre l'imitation des modèles. L'imitation parfaite consistant, comme l'a écrit Mercedes Blanco à propos du prologue de la première partie, en ce que l'histoire sera plus réduite à ses propres ressources, plus nue et plus sincère. Il est pourtant un chapitre de la première partie, le 25, où est accordé à Don Quichotte, porte-parole et bouc émissaire de son parâtre, le privilège de traiter de la question de l'imitation et d'en donner la théorie lors de la pénitence de Sierra Morena, chapitre remarquablement analysé par Riley. Riley fait de ce chapitre une sorte de point mort situé au centre de l'action de la première partie dans laquelle se font constamment entendre les échos du thème de l'imitation. C'est là que Don Quichotte réalise totalement sa tentative de vivre la fiction littéraire. La imitation de Amadís carece de todo propósito racional fuera de la imitación por la imitación misma y solo logra ser superficial y cómica. Il n'est sans doute pas indifférent que dans la deuxième partie, non plus au centre de l'œuvre, mais au cœur de l'affaire du plagiat, ce soit également les chapitres 25 à 27 qui constituent, du moins pour ce qui est de la mise en scène textuelle de l'imitation, une sorte de niveau zéro, qu'on pourrait aussi appeler « œil du cyclone », avant la borrasca dévastatrice, la vengeance multiple qui détruit les marionnettes de l'imposteur, et avant les chauffourées comiques qui mettent aux prises Don Quichotte et Sancho avec les villageois du Rebusno. Riley n'aime pas cet épisode, mais il trouve une justification intéressante qui pointe explicitement ce qu'on pourrait également appeler les âneries de Don Quichotte. El breve, absurdo e inefficace episodio de los aldeanos que rebuznan es claramente de origen popular y muy diferente de cualquiera de los otros episodios intercalados de la primera o segunda partes. Su valor ejemplar es obvio. Un grupo de hombres está dispuesto a entablar batalla por una causa tan ridícula como la alegada por Don Quijote en cualquiera de las ocasiones en que llegó a medirse con las armas. Riley a raison de juger l'épisode bref et très différent de tous ceux que l'on trouve intercalés dans les deux parties du Quichotte. Quant à sa valeur exemplaire, je dirais qu'elle ne se limite pas à l'analogie réduite à sa plus simple expression entre le casus belli des villageois et les motifs qui poussent Don Quichotte à empoigner ses armes et à se battre. son efficacité, parce qu'il en a une, et elle est signalée par la fin abrupte que lui impose le convoyeur d'armes, si pressé de partir lorsqu'il finit de raconter l'histoire qu'aucun commentaire ne va suivre son récit. Cette efficacité ne se révèle que si on la met en perspective entre les chapitres tardifs où la découverte de la suite apocryphe est explicitement signalée et le prologue. Il s'agit bien d'une histoire d'imitation, mais si primaire, si grossière, qu'elle ne concerne que des ânes et qu'elle est la seule qui puisse fustiger des ânes. Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo Quijote, digo de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar este contento, que puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Il ne l'a pas traité d'âne, je n'ai pas fait le calcul, mais je dirais qu'il l'a traité d'âne autant de fois qu'on voit apparaître le mot asno et le mot rebuzno dans l'histoire du village donc du rebuzno. Et tout cela absolument couronné par el agudissimo rebuzno de Sancho. Merci.